Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Anne Wiazemski, qui publie Une année studieuse chez Gallimard. Un jour de juin 1966, j'écrivis une courte lettre à Jean-Luc Godard, adressée au Cahier du cinéma, 5 rue Clément Marot, Paris 8e. Je lui disais avoir beaucoup aimé son dernier film, Masculin-féminin. Je lui disais encore que j'aimais l'homme qui était derrière, que je l'aimais, lui. Une année studieuse, Anne Wiazemski, c'est votre 13e livre, si je compte bien. Et pourtant, vous dites que ça vous fait toujours bizarre de vous reconnaître comme écrivain.
Oui, et ce chiffre 13, d'ailleurs, y a une vague escroquerie Gallimard, c'est-à-dire qu'ils comptent dans la liste. Ils ont tiré à part dans Folio 2 euros une nouvelle qui s'appelle Lille et qui était dans mon premier recueil. Donc déjà, ça fait un de moins. Mais c'est vrai que quand j'ai fait mon service de presse, il y a Sylvie Fenech, ma meilleure amie de toujours, qui est venue déjeuner avec moi. Puis elle regardait le livre parce que je venais de lui. C'était la première à qui je le donnais. Et elle disait, mais attends, c'est pas possible, 12, 13. Et cette amie Sylvie est là depuis le début. Donc il n'y a pas que moi qui trouve ça surprenant.
Le mot roman.
Oui.
Sur la couverture.
Oui.
Vous y teniez.
Eh bien, je n'aurais. C'est celui qui s'approchait le plus de ce qu'était, il me semble, ce bouquin. C'est-à-dire, c'est en aucun cas une autobiographie. Il y a trop d'approximations, trop de reconstitutions fausses, même si elles sont vraisemblables, et trop d'éléments qui sont laissés de côté. Récit, idem, pareil au même. Ça aurait été beaucoup plus scrupuleux et attentif. À mon avis, d'ailleurs, d'abord, ça m'ennuierait. Ensuite, il me semble que se dire que c'est un roman autorise une plus grande liberté et que dans cette liberté-là, on se rapproche de quelque chose qui est plus juste, à défaut d'être la vérité que de toute façon, on sait qu'on ne peut pas atteindre. Donc comment être plus juste, c'est par ce détour. Mais j'avais, comme je sais et je comprends que ça fait sursauter un petit peu certaines personnes, beaucoup. Au début, j'avais essayé de lancer sur France Inter que bon, c'était un raton laveur, mais ça n'a pas pris. Le terme raton laveur a été refusé.
Il y a donc la vie, et puis donc tous les événements qu'on a vécu, et puis il y a la mémoire, ce dont on se souvient la plume à la main, et de la vie, la mémoire fait un roman.
La mémoire, elle est une formidable romancière, justement, parce que, comme vous pouvez imaginer, ce qu'il s'est passé il y a 40 ans, nous l'avons, chacun dans notre vie, réécrit. On a oublié des choses, on en a ensoleillé d'autres. Donc déjà, ce serait malhonnête de dire que c'est la vérité. Et par ailleurs, je me suis servi de la, entre autres choses, de la mémoire de Pierre, mon frère, mon ami d'enfance Nathalie, qui est toujours mon ami, et d'Antoine Gallimard, qui à ce moment-là était mon ami, et qui n'était pas du tout prévu pour être le PDG des éditions Gallimard. C'était son frère.
C'était donc, un jeune homme qui faisait les 400 coups.
Non, il était très sage. Ou alors vous les avez fait avec lui. Moi, je ne les ai pas fait avec lui. Non, il était surtout, par rapport à cette bande d'amis, le seul qui était littéraire, cultivé, cinéphile. Il se différenciait beaucoup des autres. Mais ce que je, pour répondre à votre première question d'avant, moi, je me suis servi de leur mémoire, qui est aussi sujette à caution que la mienne, à cause du décalage de 40 ans.
Mmh. Et pourtant, il y a peut-être une vérité plus grande encore à rassembler ces éléments épars.
Oui, je le pense, justement. Si on s'autorise à essayer de toucher le vraisemblable, c'est-à-dire d'admettre que ça ne s'est peut-être pas passé comme ça, mais ça aurait pu se passer comme ça. Il n'a peut-être pas dit ça, mais il aurait pu le dire. Ça, je l'ai beaucoup utilisé.
Alors, cette année studieuse, c'est une année entre deux étés, 1966-1967. Et c'est vrai que cette année-là, on y pensait depuis un certain temps, depuis « Jeune fille », par exemple, ce roman que vous avez publié en 2007, où vous racontiez vos premiers pas au cinéma en 1966, dans le film de Robert Bresson « Au hasard, Balthazar ». Et on se disait que peut-être il y avait une autre histoire à raconter.
Laquelle ?
Celle que vous racontez justement aujourd'hui. Parce que Bresson n'est pas le seul cinéaste qui vous a dirigé. Hein, il y en a eu quelques autres.
Oui.
Il y a eu Pasolini, il y a eu Philippe Carrel, et puis un certain JLG.
Oui, en deux, dans la chronologie.
Mmh. Et c'est cette histoire-là que vous racontez aujourd'hui. Cette première rencontre après un repas de l'été 1965.
Oui, il était venu sur le tournage de Au hasard, Balthazar, le tournage de Robert Bresson. Et je n'avais vu aucun de ses films, c'est-à-dire qu'on en parlait tellement, il fallait tellement être pour ou contre, qu'avec l'esprit de contradiction imbécile que j'avais, et que j'ai toujours d'ailleurs, ben, du coup j'en avais vu aucun. Et la productrice, qui est cette femme fabuleuse qui est Mac Baudard, avait demandé que Robert Bresson et moi déjeunions avec lui. Et Bresson avait été comme il peut être, odieusement sarcastique et sous ses airs comme ça, très caressant et très séduisant, se foutant de sa gueule d'un bout à l'autre. Et je dois dire que j'ai suivi. Donc c'était...
Je ne m'en vante pas. Vous avez suivi à votre corps défendant.
Ah non, pas du tout. J'étais tout à fait du côté... Je rigolais avec Bresson de ses mises en boîte. Mais je ne m'en vante pas. Mais de fait, ça s'est passé comme ça. Bien évidemment, l'idiote, c'est moi là-dedans.
Au cours de ce repas, vous êtes montré particulièrement désagréable.
Désagréable dans la mesure où j'avais aucune curiosité pour lui. Et toutes les piques de Bresson me faisaient rire, oui.
Godard, lui, était tombé amoureux d'une photo de vous parue dans le Figaro. Et rencontrer Bresson, en fait, c'était le prétexte pour vous approcher.
Mais ça, je l'ai su un an après. Et d'ailleurs... C'est vous qui m'y faites penser en me rappelant ça, mais Dieu merci, je ne l'ai pas su, parce que sinon j'aurais été pire, par inculture.
Il y avait l'histoire, en tout cas, cette autre histoire, hein, dites-vous dans le roman Jeune fille, cette autre histoire qui est celle que vous racontez dans Une année studieuse.
Oui, c'était j'étais consciente que, disons, je faisais un petit effet dans le jeune fille en faisant ça. Mais pour moi, ça n'a jamais été un engagement. Je dois rien à personne, ni à vous, lecteur, ni à vous Alain Weinstein, ni à Antoine Gallimard. Mais néanmoins, c'est vrai que ce livre est quand même parti, 7-8 ans maintenant, d'une réflexion d'Antoine Gallimard me disant quelque chose du genre « Peut-être qu'un jour, qu'il faudra que tu serait bien que tu racontes ces années-là. Mmh. » Parce que ces années-là, ce sont les siennes aussi. Mais c'est Antoine Gallimard est quelqu'un de très... Il n'insiste pas, il est très, très, très discret. Donc il m'a dit ça un jour et ça a mis 5-6 ans à un peu germer. Donc d'une certaine façon, il est à l'origine du livre.
Mmh. Vous l'avez laissé reposer dans la mémoire. Hein,
c'est... Oui, c'est pas une décision facile à prendre.
Parce qu'on pourrait penser qu'après Jeune fille, le temps était venu de vous y atteler, mais pas du tout.
Hein, ben ça, c'est mon stupide esprit de contradiction, j'en ai fait un autre.
Voilà, c'était Mon enfant de Berlin, où vous racontez la rencontre de vos parents après la guerre.
Oui, et c'était... et au départ, c'est pas mon idée, c'est l'idée de mon frère qui, justement, m'a dit « Et si ?» Parce que j'avais pas d'idée, je savais pas quoi faire. Puis il se trouvait qu'on était pour une fois ensemble à la campagne. Il m'a dit, au lieu de raconter tes machins là, emmerdant avec Bresson, si tu parlais de Berlin. Et c'est parti de là. Mmh. J'aime bien quand je sais que je dois un livre à telle personne.
Là, vous commencez l'histoire par le récit de cet épisode qu'on a évoqué du tournage de Au hasard Balthazar. Et puis... vous en venez à la lettre que vous envoyez à Godard après vous êtes décidé à voir l'un de ses films masculin, féminin.
Et Pierrot le Fou surtout.
Et c'est là que vous dites ce qu'on a pu entendre dans la phrase que j'ai lue.
Entre parenthèses, vous lisez très bien. Je vous encourage à continuer la lecture pendant l'émission.
Mais je ne lis très bien que les livres très bien écrits.
Merci.
Où vous dites donc que vous aimez l'homme qui est derrière, que vous l'aimez, lui.
Oui. Mais je peux... Enfin, je comprends toujours pas l'audace inconsciente que j'ai eue ce jour-là, mais je comprends très bien le coup de foudre artistique. J'en éprouve encore, sauf que maintenant, je n'écrirai plus une lettre pareille, mais je me souviens quand j'avais lu Yann Karski de Yannick Enel, j'ai eu vraiment un coup de foudre artistique qui a fait que bon, je n'ai ni aimé, ni été aimé Yannick, ni comme ça, mais c'est devenu une amitié, vraiment. Et c'est parti d'un coup de foudre artistique. Donc ça, je fonctionne beaucoup toujours là-dessus, enfin, quand j'ai le bonheur que ça m'arrive. Mais bon, la différence, c'est que je sais ce que certains mots veulent dire maintenant. Enfin, où ça vous entraîne. Puis c'est surtout, j'aurais eu l'air... Je vois la tronche de Yannick Enel si j'écrivais ça.
Je vous aime, vous.
Oui. Mais en plus, il est vraiment aimable.
Mais ça, vous...
Je ne pourrais pas
l'écrire.
Écoutez, ce serait une telle révolution si ça se passait que... Je vous jure, je vous le dirais, mais je ne crois pas.
En juin 1966, vous le pouviez.
Oui, mais je viens d'avoir 19 ans. Et si, quand même, 19 ans, c'est le moment, c'est l'âge où si on n'a pas quelques audaces, si on est déjà avec des pantoufles et un plaid, quelle tristesse, non ?
Alors, vous avez des audaces, Anne Vazemsi, mais vous venez d'échouer quand même au bac.
Ah oui, ça, j'étais pas brillante. Et j'étais bonne pour la section de rattrapage. Entre parenthèses, vous voyez, j'étais absolument persuadée que j'avais fait un oral de rattrapage. En lisant, relisant le journal que j'écrivais, pas du tout. Il fallait repasser le bac entièrement. Donc j'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait à l'écrit. Je me souviens de l'oral, parce que j'ai eu une veine de pendu. Et je trouvais que du coup, la mémoire, elle était meilleure romancière que la vérité. Ça aurait été chiant. Je vous raconte tout le bac. Du coup, là, je me suis dit, oui, la mémoire, c'est mieux. Ça sélectionne ce qui est important.
Donc, un mauvais été, s'il faut, en septembre, repasser une partie du bac. Et surtout, il vous fallait trouver un bon professeur de philosophie parce que c'était le bac philo et que c'était la matière la plus importante.
Oui, il ne fallait pas que j'en trouve un, mais le jour même où j'ai envoyé cette lettre, je rejoignais justement Antoine pour la première fois de ma vie. À ce moment-là, il faisait des cocktails d'été, les éditions Gallimard. Mmh. C'était très chic.
Dans le jardin.
Dans le jardin. C'est la première fois que je mettais les pieds là. Et là, je reconnais, j'identifie Francis Janson, dont j'avais lu... Moi, j'étais très folle d'amour devant Sartre et Simone de Beauvoir. Donc, il avait écrit sur eux des livres que j'avais lus. Je savais qu'il était autant moderne que, évidemment, revue magique. Et par ailleurs, je savais son... Par François Mauriac, mon grand-père, son trajet de militant du FLN qui avait créé le réseau Janson. Et toujours dans cette journée inouïe, porté par une énergie mystérieuse qui n'est pas du tout... Vous me connaissez un petit peu ce qui me caractérise. Je l'ai abordé en lui disant « Est-ce que vous voulez bien me donner des leçons de philo ?» Puis il m'a dit « Oui, rendez-vous début août chez lui, rue Raynouard. Mmh. » Et de là, et ça a été des discussions absolument passionnantes qui m'ont amené à réussir mon oral. Et même à parce qu'il pensait que j'étais faite pour la philosophie, ce en quoi il m'idéalisait, à m'inscrire à la faculté de Nanterre, à la rentrée.
Et avec lui, ce n'était pas la philosophie à Nanterre, ce n'était pas la philosophie dans le boudoir, c'était la philosophie au bois de Boulogne.
Oui, au début, c'était chez lui, et puis après, ça s'est poursuivi après le bac, en promenade, promenade énergique autour du lac, la chienne cocker Nadja, moi et lui. Mmh. Maintenant, j'ai tout perdu de la philo. Mais nos discussions sur la pouvaient nous prendre 2 heures de passion.
Donc c'est une amitié, en fait, qui est née entre vous.
Oui, et tout de suite, premier jour. Et pour moi, c'était très important, parce que c'était, en fait, moi qui étais très jeune, qui avait 19 ans, j'étais traitée comme une égale. Donc ça, c'était une découverte extraordinaire que des adultes formidablement intelligents me traitent comme leur égale. Mmh.
Vous suivez son conseil, vous allez à Nanterre, et à Nanterre, vous vous ennuyez beaucoup. Mais c'est là qu'un autre ami, Michel Cournot,
oui,
va vous délivrer de l'ennui avec une phrase, comme celle dont il avait le secret. La vie que nous aimons est ailleurs.
Mais ça me fait plaisir que vous parliez de lui, et à la façon dont vous venez de me poser une question, je sens que vous l'aimez beaucoup. Je me trompe ?
Non, vous ne vous trompez pas.
Ben, moi aussi. Donc c'était parmi les plaisirs ou les difficultés que j'ai eues avec ce livre, il y avait le plaisir de faire revivre certaines personnes que j'ai aimées beaucoup, qui ne sont plus là, comme Michel Cournot. Et disons que Michel, c'était ce qui avait de plus facile à écrire. Il est ressorti, il rejaillissait tout entier avec des mots qui n'étaient peut-être pas le sien, mais qu'il aurait pu dire. Mais par contre, ça, c'est la vérité. J'allais au massacre avec cet examen parce que j'avais rien fichu de l'année à Nanterre. Et effectivement, il m'a dit, mais enfin, arrête, pourquoi t'emmerder à Nanterre ? La vie que nous aimons est ailleurs.
Il y a des phrases comme ça
qu'on garde.
Qu'on vous dit et qui ont un retentissement toute la vie.
Pour moi, oui. Et pour vous aussi, je pense.
Des phrases de Michel Cournot, mais peut-être d'autres de Francis Janson, de votre grand-père.
Oui, sûrement. Francis Janson, c'était... il avait un peu un tic, enfin c'est beaucoup dire un tic, qui était toujours précis à penser. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup apporté là-dedans, parce que quand j'ai débarqué chez lui, j'étais un fouillis d'émotions, de trucs, et qu'effectivement, un oral de philo, il vaut mieux savoir apprendre un peu à préciser sa pensée.
Il y avait aussi des phrases de Jean-Luc Godard, j'imagine, qui ne passaient pas inaperçues. Celle, par exemple, vous disant « Ainsi va la vie à bord du redoutable ».
Et ça, j'adore, parce qu'il ne l'a jamais prononcé. Mais c'est mon ami le plus cher depuis très longtemps, qui est Jacques Fieschi, qui est scénariste, metteur en scène, auteur, qui dit ça tout le temps. Et si vous voulez, Jean-Luc avait d'autres phrases qui étaient exactement l'équivalent de ça, et je trouvais que ça lui collait aussi bien que, par exemple, il était fou de rage avec la publicité « Opel défie le temps ». C'était donc ben, le ainsi va la vie à bord du redoutable, c'était aussi bien. Et quand je, parce que je me documente aussi sur l'année en même temps que j'écris, je vois que c'est l'année du lancement du redoutable, je me dis, ah non, je me prends le redoutable. Et ce qui est très drôle, c'est que vous et la journaliste du Monde qui avait fait m'avait interviewé comme ça, elle me disait toujours, je cite maintenant toujours, comme dit Jean-Luc Godard ainsi, et donc je lui ai dit comme à vous, mais justement ça me fait rire parce qu'il ne l'a jamais dit cette phrase. Et alors mon ami Jacques, il est un peu vexé que j'ai piqué sa phrase pour la mettre dans la bouche de quelqu'un d'autre. Mais c'est pas une contre-vérité. C'est ça par rapport à votre question sur le roman.
Est-ce qu'il y a des phrases empruntées au livre que Jean-Luc Godard aimait vous citer? Parce qu'on sait que c'est aussi un grand collectionneur de phrases.
Oui, exactement. Par exemple, pour vous donner alors là un exemple vrai, 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 c'est Apollinaire. C'est l'exemplaire que j'ai toujours de Caligramme avec la dédicace que je mets. Ou la dédicace sur le coffret les 32 sonates de Beethoven. Et puis, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas utilisées, tout simplement parce que c'était trop intime, trop brûlant, et que j'aurais trouvé, à mes yeux et à mes yeux seuls, comme une trahison d'étaler ça. Alors que la dédicace d'Apollinaire ou des 32 sonates de Beethoven, c'est très beau, mais il me semble que ce n'est pas compromettre son intimité.
Il y a aussi, bien entendu, des phrases clés de votre grand-père, François Mauriac, à propos, par exemple, du mariage. Un mariage qui le contrariait un peu, parce qu'il savait que Jean-Luc Godard était protestant, divorcé, et donc il ne pourrait pas y avoir de cérémonie religieuse.
Oui, alors ça, disons que c'est vrai, parce que j'avais oublié. Et en relisant ces notes prises dans ce journal de cette époque, j'avais oublié qu'il avait dit être le grand-père de Jean-Luc Godard, quelle consécration. Donc ça, que je lis ça, je me dis, je ne vais pas m'en priver quand même. Et un peu de la même façon, ou pas de la même façon, ça peut paraître bizarre, mais j'ai absolument aucun souvenir de cette demande en mariage. Et donc, voyant mon frère, je lui ai dit, tu te souviens de ça, toi? Il me dit, ah, très bien. Et il me raconte la scène. Et du coup, d'ailleurs, je la raconte de son point de vue dans le livre. Mais je n'en ai aucun souvenir.
En tout cas, votre grand-père ne s'est jamais opposé à ce mariage.
Ah non, mais il était formidable. Il était. Je crois maintenant, avec la distance, que c'était assez distrayante. Emmerdante, mais distrayante.
Donc votre frère confirme la demande en mariage.
Oui, c'est lui qui la raconte.
L'autorisation.
Il était planqué dans l'escalier.
De vous épouser. Et c'est une demande adressée à François Mauriac parce que c'est lui en fait qui s'occupait de votre éducation quand votre père est mort prématurément.
Oui,
c'était 1962.
Légalement notre tuteur.
En tout cas, votre grand-mère s'est bien amusée à cette demande en mariage.
Ma grand-mère?
Oui.
Pourquoi?
Je ne sais pas, je vous pose la question.
J'en sais rien. Si vous voulez, j'avais déjà fait mienne la phrase de Cournot, la vraie vie est ailleurs, donc je n'ai pas grand souvenir de ce qui se passait. Il faisait beaucoup de bruit dans mon dos, tous, à mon sujet, mais j'en avais des échos par mon frère, moi j'étais ailleurs, au sens physique du terme aussi. Je pense que ça n'a pas dû lui plaire du tout.
Selon votre frère, tout s'est figé. À ce moment-là, chacun a pris une pause guindée dans le plus...
Ah, mais ma grand-mère n'était pas présente. Ça s'est fait entre les deux hommes. Et Dixit mon frère qu'aurait dit mon grand-père. Dès qu'Anne est arrivée, tout s'est figé. J'étais vexée, évidemment.
Est-ce que François Mauriac aimait les films de Jean-Luc Godard?
Oui, il n'en avait vu aucun, mais très vite, il a demandé à voir avec moi. C'était à bout de souffle. On est allé sur un tout petit cinéma des Champs-Élysées qui passait des films qui étaient déjà sortis depuis très longtemps. Et il en a vu d'autres avec mon frère.
Et est-ce qu'il a vu la Chinoise?
Eh bien, c'est pareil. Ça, très sincèrement, je n'en ai aucun souvenir. Quand la Chinoise est sortie, j'étais mariée. J'avais sauté à pieds joints dans une autre vie.
De votre grand-père, vous dites qu'il vous était supérieur à tous en intelligence et en humour.
Ah oui. Oui, je maintiens. À tous.
Avec Jean-Luc Godard, vous alliez au cinéma?
Tout le temps. C'est-à-dire, on voyait... quand on travaillait un film par jour, c'est-à-dire le soir plutôt, et quand on ne travaillait pas, c'était entre deux et trois.
N'importe quel film?
Non, il y avait tous les films qu'il souhaitait que je connaisse. J'ai eu une éducation cinéphilique très privilégiée. Je lui dois d'avoir formé mon goût, plus tous les films qui sortaient.
Y compris...
Mais ça, vous allez me parler de Louis de Funès?
Oui.
Et ça m'étonne tellement, tout le monde est étonné qu'il puisse adorer Louis de Funès. Mais il est génial, Louis de Funès. C'est, vous voyez, c'est comment un cinéaste comme lui aurait pu se passer de ignorer Louis de Funès. C'est à grande vadrouille, je ne sais plus de quoi je parle. Le film qu'on va voir. On est allé. Moi, je l'ai suivi sur tous les mauvais gendarmes de Saint-Tropez aussi. Mais c'est.
Ça le fait rire.
Hein?
Ça le fait rire.
Mais oui, mais c'est vraiment drôle. Ça vous fait pas rire? Alain Weinstein.
Je préfère Les Carabiniers ou Bande à
part. Ah non, pas moi. Alors là, je préfère Rabbi Jacob. Si vous saviez, j'ai été convoqué pour le casting parce qu'il fallait que la fille de Louis de Funès, ou je ne sais plus quoi, enfin la nièce, soit une rouquine. Donc j'avais été convoqué par la grande directrice de casting, Margot Capellier, parce que j'étais rousse. Et je ne rêvais que ça, jouer un petit rôle avec Louis de Funès. Et en fait, elle m'a dit... qu'elle me convoquait pour faire ma connaissance, mais que moi, j'avais rien à faire dans un film de Gérard Oury avec Louis de Funès. Et je disais, si, et j'ai pas été prise. J'étais malheureuse comme tout. Et c'est Miu Miu qui débutait, qui joue ce rôle avec une perruque rousse. Voilà, un de mes grands regrets.
Dans Une année studieuse, Anne, vous décrivez comme plus amoureuse que jamais du cinéma.
Ah oui.
Notamment quand vous assistez au tournage de La mariée était en noir de François Truffaut.
Ah oui. Mais ça, c'est... Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un tournage, mais aujourd'hui encore, j'ai les rares fois où il m'arrive de passer sur un tournage et je ne le fais pas parce que si on n'a pas quelque chose à y faire, j'ai peur de déranger, ce qui est normal, ce qui est la vérité, on dérange. Mais dès Balthazar, ça a été un endroit... où intensément, c'était un raccourci de la vie. C'était les moments, la concentration d'une équipe, le temps d'un plan. Je ne connais pas l'équivalent ailleurs. Donc ça, oui, ça m'a procuré longtemps une grande émotion. Et François Truffaut, puisque c'est lui qui dirigeait La mariée était en noir, était quelqu'un qui mon Dieu, oui, qui faisait qu'on ne pouvait pas le quitter des yeux.
Est-ce que l'écriture des livres, donc ces 13 livres qui n'en sont pas vraiment, dont nous parlions au début de l'émission, vous procure les mêmes émotions?
Non, c'est d'autres choses, évidemment. Et puis le temps passe, les années comptent. On n'a peut-être pas les mêmes capacités d'émotion à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais sans doute, ça m'en procure aussi.
Ce qui peut surprendre tout de même, c'est que quelqu'un qui se déclare être une grande amoureuse du cinéma, un beau jour, décide d'arrêter.
Non, c'est très compréhensible parce que j'ai été une amoureuse évincée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, petit à petit, le cinéma s'est détourné. Et j'avais... Il faut vraiment y croire, parce que c'est un métier très difficile, comédien. Si on n'est pas animé, mais c'est un lieu commun, mais je l'assume, d'une flamme qui fait qu'on y croit, qu'on pense qu'on passe, quand on travaille pas, un mauvais moment, mais qu'on va remonter sur scène ou revenir dans un studio. Si on commence, ça commence à se fissurer, c'est plus possible. Et c'est ce qui s'est passé, Et c'est pas venu de moi, c'est venu du cinéma. Mmh. C'est difficile, hein, de par exemple le passage de la trentaine pour une actrice, c'est très difficile. Et alors évidemment la quarantaine et la cinquantaine, n'en parlons pas. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé effectivement à ressentir la souffrance d'être près d'un téléphone et d'attendre qu'il sonne et il ne sonne pas. Et tout d'un coup, la perspective de vieillir aussi comme ça. Donc ça, comme l'envie d'écrire était là depuis très longtemps, mais très en sourdine, ça s'est autorisé à sortir pas à pas pour plutôt pallier à cette souffrance-là.
Ce livre est un roman sans personnage, au sens où on l'entend habituellement, puisque ce sont des personnes qui ont véritablement existé, qui vous faites revivre. Le temps d'un roman, peut-être. Certains, trop, ont disparu. Je pense à celui que nous avons cité, Michel Cournot, oui. Par exemple. D'autres sont encore là.
Oui.
Est-ce qu'ils ont été destinataires du livre ?
Osez préciser votre question.
Vous ne l'avez pas envoyé à Jean-Luc Godard.
Voilà. Non, je ne l'ai pas envoyé. Et je ne sais pas s'il l'a lu, donc en aucun cas, je ne l'ai pas envoyé parce que je ne voulais pas qu'il puisse penser qu'après 30 ans de silence, c'était un message vers lui, ce n'est pas ça, du tout. Je me doutais de toute façon, vous voyez, c'est pas un message vers lui, à aucun moment. Il ne répond jamais quand on écrit sur lui, comme ça, ça on le sait. Donc, c'était clair pour moi qu'il n'y aurait pas de réponse. Et si j'avais eu une réponse, je vous aurais peut-être répondu oui, il y a une réponse, mais j'aurais immédiatement ajouté qu'il ne vous regarde pas, mais il n'y en a pas.
Vous auriez aimé qu'il y en ait une ?
Ça ne vous regarde pas. Non, c'est vrai. Là, on rentre dans l'intime. Et je suis très stricte là-dessus.
Une année studieuse, le livre d'Anne Wiazemski est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Claude Nior, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.